et Marche sont attendus quai numéro 1.
Top départ, le rendez-vous jeunesse en mouvement qui te donne les clés du voyage.
Pose cette valise. Chouette à l'espaletta.
Ne t'inquiète pas, il n'y aura aucun problème.
Merci de votre attention.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Top Départ pour la mobilité. Salut Floriane.
Et salut Karina.
Je m'en lasse pas de ce générique, je sais pas toi.
Mais ah ouais,
il est pas
nous
mal.
Transport.
Et Top Départ, bah si vous connaissez pas encore, c'est l'émission qui vous aide à réaliser vos rêves de voyage par Floriane et Karina.
Et aujourd'hui, pour l'épisode 6 de la saison 2, on vous emmène au Maghreb.
Oui. Nous sommes en ligne avec Anna, qui est partie cet été au Maroc avec la MJC de Châteauneuf. Bonjour Anna.
Bonjour.
Et merci à toi de participer à l'émission.
Avec plaisir.
Et aujourd'hui, nous avons également avec nous William, qui est au téléphone puisqu'elle est encore en Tunisie. William est la future service civique de la Maison de l'Europe. Elle n'a pas encore rejoint l'équipe, mais ça ne saurait tarder puisque son arrivée en France est imminente. Bonjour William.
Aslema à la tunisienne.
Ah, trop classe.
Génial.
Comment est-ce qu'on dit c'est parti?
Nabdeo.
Ok.
Eh ben, allez, allons-y.
Top départ, le rendez-vous jeunesse en mouvement qui te donne les clés du voyage.
Alors on va commencer par vous demander de nous raconter un peu la préparation du voyage. Donc là, notre axe, c'est vraiment de parler du Maghreb et en particulier, grâce à vous, du Maroc et de la Tunisie. Qu'est-ce qu'il faut prévoir, qu'est-ce qu'il faut préparer pour partir en voyage? On va peut-être commencer par Anna, toi qui l'as fait, qui est partie au Maroc. Est-ce que tu te rappelles un peu ce que tu as dû faire pour te préparer?
Oui, alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti avec... donc on était un groupe, on était 5 jeunes et vu qu'on avait des mineurs, on avait aussi 2 animatrices avec une structure, une MJC. Et alors ça a été un long temps de préparation parce qu'il a fallu d'abord planifier tout notre programme, notre projet, ce qu'on avait envie de faire. Nous, on avait envie de faire un projet plutôt solidaire, c'est-à-dire pour découvrir le pays, mais aussi pour découvrir en fait le vrai aspect du pays, pas faire du tourisme. Donc on s'est rapproché d'associations. On a été en collaboration avec une association locale qui s'appelle l'association Amoudou, qui est basée à Taroudan, donc au Maroc. Et puis, grâce à elle, on a monté petit à petit notre projet en amont quand on était en France pour récolter également les subventions. On a demandé des financements auprès de la CAF, auprès de plusieurs organismes, mais aussi des autofinancements. Donc, on a organisé des actions pour récolter par nous-mêmes en fait, de l'argent pour financer notre projet.
Wow.
Et avant de se préparer, voilà, on a vraiment étudié plusieurs destinations. Une fois qu'on a choisi, on a vu avec eux là-bas en direct qu'est-ce que... ils attendaient de nous, qu'est-ce que nous, on voulait, parce que c'était quand même notre projet.
Ouais.
Et ça s'est construit petit à petit comme ça en France, avant le grand départ.
Quelle organisation.
Habituellement, on nous dit « Oh, on est parti comme ça !» Mais là, pas du tout. Et pour le logement, pour l'hébergement, vous avez fait comment?
Alors justement, avec l'association avec laquelle on était en partenaire, ce qui était top, c'est qu'ils nous ont proposé la possibilité d'être logés dans leur association. En fait, ils ont des locaux parce qu'ils ont l'habitude d'accueillir des groupes de jeunes et ils ont donc des locaux à disposition où il y a, c'est une véritable maison en fait, des chambres, une cuisine, etc. Donc en partant en partenariat entre guillemets avec eux, on a eu le logement que évidemment on leur a payé, ça faisait partie de notre budget. Et donc, on était logés dans les locaux de l'association. Et avec, en plus, ce qui était top, c'est qu'on avait une cuisinière qui s'occupait de nos petits plats midi et soir.
Oh là là, la
donc,
chance.
on avait aussi la nourriture. Donc, en plus de la nourriture locale, on a pu découvrir. Et surtout, ça nous permettait, nous, de faire les activités de la journée, de rentrer à la maison, que ce soit prêt. C'était génial.
Super. Bah, on sent que c'était bien, bien planifié et que du coup, est-ce que d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Est-ce que tu penses que le fait que ça ait été si bien prévu en amont, ça se soit bien passé sur place?
Ah, évidemment, oui. Bah, c'est vrai que nous, on avait cette rigueur-là. On voulait de l'organisation. C'est un pays qu'on connaissait pas. On voulait pas se retrouver là-bas et ne pas savoir quoi faire ou au contraire avoir envie de tout faire et ne pas être en capacité. C'est pour ça qu'on avait bien tout prévu avant. D'ailleurs, je reviens sur le logement. On a logé à l'association, mais on a aussi On a aussi fait une nuit dans un village berbère chez la famille d'une des membres de l'association. Donc, on a bougé un petit peu comme ça, en planifiant tout, et ça s'est bien déroulé, presque sans imprévu, on va dire.
Ouais, bon, la prochaine fois, on part avec toi, hein. Ça a l'air vraiment sympa.
Oh, avec plaisir.
Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient partir au Maroc, pour la préparation, quelque chose à ne pas oublier ?
À ne pas oublier, une casquette, peut-être ?
Ah, génial. Nous,
on est parti au mois d'août, on n'a pas eu froid, voilà.
Le soleil.
Ouais. Et à l'inverse, toi, William, j'imagine que du coup, tu es en plein dans cette phase de préparation, puisqu'il est prévu que tu nous rejoignes d'ici une quinzaine de jours normalement. Comment ça se passe pour toi ? Tu es dans quel état d'esprit ?
Bon, j'étais un peu en plein préparation. Vraiment, ça prend beaucoup de temps. Surtout les papiers ici à Tunisie, c'est vraiment un cauchemar. Les papiers, la municipalité et tout, ça prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai déjà déposé le dossier de mon visa.
Oui.
Maintenant, je suis dans la phase latente. Elle est la phase la plus stressante.
Oui, parce qu'il faut préciser que tu vas donc venir en France pour faire un service civique. Et donc, dans ce cadre-là, tu as besoin d'un visa spécifique pour pouvoir rester plusieurs mois avec la maison de l'Europe. On ne l'avait pas précisé au départ.
Bien sûr, c'est très défini. Et heureusement que le SCD a vraiment facilité la préparation. Elle a préparé déjà les documents nécessaires. Tels que le prise en charge, l'attestation d'assurance, l'hébergement et tout. Et ça m'a facilité beaucoup la phase de la préparation.
D'accord, tant mieux. Et est-ce que tu es stressée à l'idée de partir en mobilité ?
Oui, un peu. C'est ma première fois, en fait, de voyager.
Waouh, c'est un grand pas. Bravo de le franchir.
Oui, j'espère bien. Et je suis très excitée par cette expérience.
Bah, tant mieux. Super.
Ça me rappelle, ouais, dans les voyages, cette sorte de sensation double étrange entre une peur un peu négative,
ouais,
presque, et en même temps une envie incroyable de partir très positive.
Il y a un truc qui te pousse et puis l'autre qui te retient.
Oui, ça donne envie de partir, moi aussi. Mm. Et Anna, toi, côté papier, est-ce qu'il y a eu des papiers à faire, des questions de visa ou pour la sécurité sociale, des trucs comme ça ?
Alors oui, nous, on a rempli, alors déjà en amont pour les deux mineurs qui étaient avec nous, des autorisations parentales de sortie du territoire. Et niveau de la destination, on a eu des papiers officiels à remplir de la part du Maroc qui nous avait demandé. On devait mettre nos coordonnées. On a aussi eu à régulariser concernant le Covid, donc avec des vaccins ou des tests PCR. Voilà, on était encore dans une phase où ça change souvent, mais... On a eu affaire au Covid, on a été contrôlé en arrivant à l'aéroport, en fait, à Agadir. Mmh. Donc, niveau papier, on a fait ça et on a été beaucoup encadré, c'est-à-dire que l'association dans laquelle on était, à Moudou, dont je vous parlais tout à l'heure, a dû déclarer à la police ou gendarmerie locale, en fin de compte, qu'on était bien arrivé avec les copies de nos passeports, etc. Et les services locaux savaient très bien qu'on était là. Et voulaient savoir un petit peu où on était aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient eux aussi notre programme pour qu'on soit surveillés, entre guillemets, pas négativement parlant évidemment, mais qu'il se passe quelque chose, quoi.
Super.
Il paraît que c'est typique.
Alors, William, on demande à chaque fois à nos invités de nous parler d'une différence culturelle notable entre leur pays et la France. Et comme tu es jamais venu en France, est-ce qu'il y a une différence culturelle à laquelle tu t'attends ?
Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence. La Tunisie et la France a vraiment des relations même historiques, et même on a notre famille qui est une partie de notre famille basée à France, à Paris exactement, et j'ai un peu une idée, on n'est pas très différents, je pense.
Et si tu voulais souligner quelque chose de très particulier de la culture tunisienne, tu parlerais de quoi ?
Bon, pour la culture tunisienne, on peut parler que nous, en tant qu'un pays un peu musulman, et notre culture est musulmane à la base. Dernièrement, déjà le samedi dernier, on a eu célébré la naissance du prophète Mohammed, et c'était une très belle occasion de célébration entre familles et entre amis aussi. Et déjà, j'ai préparé quelques recettes et même la musique, c'est sous le même thème de cette célébration. Donc,
Eh bien, justement, tu peux nous dire la musique que tu as choisie ?
Oui, c'est Zed Nebi de le musicien Zied Rarsa.
Eh bien, on va l'écouter tout de suite alors. Zed Nebi wa farah Nebi.
I'm not afraid to die.
Vous écoutez Radio BLV 93.6 et c'est Top Départ, l'émission qui donne envie aux jeunes de voyager. Nous sommes avec Anna et William pour parler du Maroc et de la Tunisie. Et William, tu nous parlais de cette fête religieuse que vous avez en Tunisie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe ?
Pour nous, c'est vraiment une célébration importante, musulmane surtout. Et aussi, on a nos traditions tunisiennes. Sinon, la chanson, elle a plusieurs versions. Et c'est, je pense que c'est une version marocaine, hein, si je m'en doute.
Ah.
Mais il y a plusieurs versions. Il y a une version tunisienne du Zied Rasta. Mais on partage, en Maghreb, on partage beaucoup ces traditions-là. Et la célébration, elle est arabe, musulmane déjà.
Et il se passe
sinon,
quoi ?
Comment ?
Il se passe quoi pendant cette célébration ?
Dans cette célébration, on se réunit en tant qu'une famille pour préparer une recette très délicieuse qu'on partage ensemble, on partage avec nos voisins, nos proches, nos proches et nos amis aussi.
Ça donne envie. Et c'est maintenant l'heure de la chronique de Floriane. Floriane, elle a envie aujourd'hui de nous présenter un nouveau dispositif dont on n'a encore jamais parlé dans l'émission. C'est exceptionnel.
Mais ouais, quel teasing, Karina. Mais oui, tu as raison. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter le service civique Prodige que représente William aujourd'hui dans notre émission. Pour les auditeurs, je précise que Prodige s'écrit avec 2D. Les initiales signifient promouvoir les objectifs de développement durable pour innover et grandir ensemble. Un grand programme donc. Mais concrètement, ce dispositif, qui est encore au stade de projet pilote sur la région, inscrit des volontaires venant de France, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie dans un parcours d'engagement autour des objectifs de développement durable donc, via des missions en service civique localisées, voilà, comme je vous disais, dans la région, mais c'est sur la métropole large du Grand Lyon et donc maintenant aussi sur Valence. Les volontaires s'engagent sur une mission individuelle dans une structure partenaire. Par exemple, William va passer 3 jours par semaine à la Maison de l'Europe, tout en participant à un projet de groupe avec les autres volontaires qui seront aussi engagés dans ce dispositif. Donc, sur une journée par semaine, ils vont monter un projet autour des actions de sensibilisation aux ODD, aux Objectifs de Développement Durable. Enfin, les volontaires bénéficient également de temps collectif de formation pour monter en compétence sur la gestion de projets et les ODD en général, et aussi réfléchir à leurs projets d'avenir. Et ça leur prend aussi une journée par semaine. Pour info, pour ceux qui ne connaissaient pas les objectifs de développement durable, il en existe 17 et en fait, ils vont constituer ce qu'on appelle l'agenda 2030, c'est-à-dire qui couvre l'intégralité des enjeux du développement durable, que ce soit le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, la prospérité économique, la paix, bref, tout un tas d'objectifs très très importants, tout un tas d'enjeux qui font qu'on aura un avenir peut-être un peu plus serein que la situation actuelle. Et donc, c'est tout l'enjeu que des jeunes aujourd'hui s'engagent autour de ça. Ma chronique aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait désintéressée, Karina, il faut que je te dise.
Tiens donc.
En effet, dans le cadre de ce programme, les volontaires sont en binôme dans les structures d'accueil et il nous manque encore la personne qui rejoindra WIEM. Alors, si vous nous écoutez et que ce projet fait sens pour vous, que vous avez moins de 25 ans, envoyez votre CV à la Maison de l'Europe Drôme Ardèche dès maintenant. On vous attend avec impatience.
Le message est transmis. Merci Floriane.
Merci à toi.
Où sont les poulards ? J'ai faim.
Alors William, tout à l'heure tu nous as parlé de recettes. Est-ce que tu peux justement aujourd'hui nous partager le plat que tu souhaitais nous faire connaître ?
Oui, avec un grand plaisir. Maintenant, je vous présente la fameuse et l'authentique recette de l'arcide de Sbougou. C'est comme une sorte de porridge à base de farine ou de fruits secs. Nous, les Tunisiens, préparant lors de Moulet al-Maulad al-Nabawi Sharif, c'est une fête musulmane qui commémore la naissance du prophète Mohammed, et c'est une tradition typiquement tunisienne. Elle est préparée dans tout le pays, du nord au sud, lors de ce jour, et offerte aux voisins, aux amis et à la famille aussi. Le zoubou, c'est un fruit sec à base de pignons de pin d'Alep. D'ailleurs, vous ne trouverez ce délice nulle part ailleurs au monde. Oh. Il y a aussi, d'autres types revisités qui sont à base de noisettes, de pistaches, de grains de sésame. D'ailleurs, si vous souhaitez en acheter, vous en trouverez dans certaines épiceries tunisiennes à Paris. Cette recette dépend surtout de la patience. Il faut déjà s'y prendre 2 jours à l'avance pour la préparer.
Comment ça marche
pour pour préparer cette mélange ou cette acide à l'avant-veille, il faut juste trier soigneusement les graines de zoubou, les rincer à grande eau et les égoutter, puis torréfier très très doucement au four, ou mixer très très finement et laisser tremper toute la nuit dans l'eau. Puis à la veille, juste filtrer l'eau de trempage de zoubou très soigneusement, 2, 3 ou 4 fois, afin d'éliminer juste les impuretés. Ensuite, on ajoute à cette eau 600 g de farine avec un mixeur plongeant et la cuire à feu doux et mélanger sans arrêter. Et juste, il ne faut pas arrêter la mélange. En utilisant une grosse spatule en bois, ça prend entre 30 et 1 heure jusqu'à ce que tu observes l'épaississement de la crème. En fin de cuisson, on verse le sucre, c'est selon votre choix bien sûr, et remuez encore un peu à feu doux, et puis versez dans des coupes et la laissez refroidir. On prépare ensuite la crème parfumée ou la crème dessert, et on la verse sur le dessus de chaque coupe de zoubou, et la laisser refroidir. Puis, on décore le dessus des coupes, selon vos envies, avec des fruits secs. Et voilà, voilà, l'acida est prête pour le lendemain. Et bien sûr, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et vos proches.
Waouh, génial.
Oh là là, bah tu nous donnes faim.
C'est ça, là, on s'est lancé des regards en se disant, ok, on en veut. Donc, on va passer commande, mais on aura compris que la gourmandise est synonyme de patience pour cette recette.
Oui, et à noter, donc, zgougou, c'est s'écrit Z-G-O-U, c'est ça pour les personnes qui aimeraient taper sur Internet pour découvrir un peu mieux.
Oui.
C'est noté. Merci, William.
Top départ, le rendez-vous jeunesse en mouvement qui te donne les clés du voyage.
Alors maintenant, on va vous poser un peu des questions sur la partie sur place. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des conseils aussi à donner pour la vie sur place? On va commencer par Anna. Déjà, Anna, combien de temps tu es partie au Maroc et comment ça s'est passé sur place? Tu faisais quoi?
Alors nous, on est parti une semaine, donc du lundi matin Alors, on devait rentrer le dimanche soir et puis les avions nous ont dit le contraire, donc on est rentré le lundi d'après.
La chance, c'est pas mal.
Ouais, on peut dire ça. Mais enfin, du coup, on a passé la semaine. Alors, en déroulé de la semaine, on a fait les 2 premiers jours, on a travaillé dans une pépinière, c'est-à-dire qu'on était donc dans la ville où on était, à Taroudan. Dans une pépinière avec le pépiniériste qui nous a expliqué donc à faire des boutures, à entretenir les plantes, etc. Le but, c'était en fait de partager, de notre côté, de l'aider dans sa pépinière. Donc, on l'a aidé à déplacer certaines choses, à repeindre un peu les infrastructures, etc. Et lui, en contrepartie, si je puis dire, il nous a montré comment ça marchait, surtout que c'est des plantes qui sont différentes de chez nous. En France, on n'a pas tout à fait le même climat. Et on a aussi énormément échangé, en fait, sur l'agriculture, l'eau, parce que c'est différent. Ils ont moins d'eau qu'on pourrait trouver en France. Et donc, comment lui, il s'en sortait dans sa pépinière avec ce manque d'eau, entre guillemets. Et puis également sur tous les thèmes, en fait, lui, en tant qu'homme marocain, Donc, il est né au Maroc, il n'avait jamais voyagé, il me semble. Comment il voyait les choses? Qu'est-ce qu'il pouvait nous dire, en fait, sur ce mode de vie-là? Ensuite, donc, comme j'ai dit précédemment, on est parti dans un village berbère. Donc, on est parti à Ouarzazate, à peu près. C'était vraiment un tout, tout petit village. On a été accueillis dans une famille, la famille donc, d'une des membres de l'association. Donc là, ça a été encore plus un choc culturel parce que c'est un village où il n'y a pas d'eau courante. Ils avaient les puits à la maison. Il n'y a pas vraiment de salle de bain. Il n'y a pas vraiment de matelas non plus. Ils dorment sur des tapis, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui diffère beaucoup de notre mode de vie occidental. C'est aussi des petits villages dans lesquels ils ne parlent pas français parce qu'on a eu quand même la chance d'être dans un pays où la barrière de la langue n'était pas trop forte. Sauf que là où on était, nous, ils parlaient berbère et ils ne parlaient donc pas français. Donc, on avait quand même quelques interprètes, si je puis dire, puisque la personne qui était avec nous de l'association, cette femme parlait français, ses cousins aussi, mais la plupart des plus anciens ne parlaient pas français. Et ensuite, on a fini la semaine donc, dans la ville de Taroudan, toujours, avec cette fois-ci Omar, c'est un artisan du cuir, qui nous a fait visiter sa tannerie à Taroudan et nous a appris les métiers du cuir. Pas du cuir industriel comme on pourrait penser, mais vraiment comment il s'occupait des peaux et après de toute la fabrication qui était artisanale en fait. On a fait nous-mêmes nos petits sacs et nos petites sandales pour ramener à la maison en souvenir. Donc on a échangé comme ça avec des interlocuteurs locaux leur métier, leur mode de vie, et plein d'autres thématiques. On a pris beaucoup de temps de discussion avec chaque interlocuteur qu'on croisait pour échanger sur toutes les thématiques et surtout sur la thématique de développement durable et d'environnement parce que c'était vraiment là-dessus qui était axé notre projet. C'était une thématique qui nous tenait à cœur. Comment là-bas, ils géraient cette question-là?
Et justement, qu'est-ce que vous en retenez de ces moments-là d'observation et de partage?
Alors, sur le moment, c'était super. C'est vrai qu'on a passé de très bons moments et c'était hyper intéressant de connaître le point de vue en fait de tout le monde. Mais c'est vrai que nous, ça nous a fait un petit peu mal au cœur parce que question environnementale, c'est pas un pays qui est au niveau souhaité. C'est-à-dire que là-bas, les poubelles et le recyclage, c'est encore un petit peu compliqué. Nous, dans la ville dans laquelle on était, il n'y avait pas de recyclage. Je crois que dans les très grandes villes, il y en a, mais nous, on était dans une assez grande ville, déjà, il n'y en avait pas. Et même quand on est allé au village, il n'y avait pas de poubelle. Ça, c'est quelque chose qui nous a choqués, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de poubelle. Ils jetaient dans la rue et ils nous ont expliqué en fait, qu'ils faisaient des montagnes de déchets dans la rue et qu'ils mettaient le feu quelques fois par an pour éliminer les déchets, entre guillemets. Alors nous, on était vraiment tout simplement choqués de voir les papiers comme ça qui traînaient par terre parce que ce n'était pas en fait, dans leurs habitudes de les collecter à un endroit et encore moins de les recycler.
Oui, mais est-ce que c'est la même chose en Tunisie?
Bon, il y a parfois, on rencontre tel accident en fait. Il n'y a pas un esprit environnementaliste en Tunisie, malheureusement.
Tu vas changer tout ça, tu vas transformer le monde de demain avec ta mission pour inspirer les grandes causes en Tunisie, on espère.
Bien sûr.
Et Anna, est-ce que tu as remarqué des particularités du Maroc qui t'ont marqué, à part les déchets?
Ça, oui, bien sûr. Des particularités, c'est vrai que ça dépendait déjà où on était. Quand on était à la ville ou au village, c'était déjà des mentalités très différentes. Mais le fait qu'ils sont beaucoup plus posés, dans le sens où il y a beaucoup moins d'horaires très précis, c'est beaucoup plus libre entre guillemets. Nous, quand on était là-bas, quand on devait par exemple donc retourner à la pépinière l'après-midi, Youssef, celui qui s'en occupait, il nous disait waouh, vous venez vers 3 heures de l'après-midi. Mais vers 3 heures, ça pouvait être 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures, ça ne dérangeait pas. Alors qu'en France, nous, c'est plutôt rendez-vous à telle heure et puis on y va, quoi. Des choses comme ça. Ou même la musique. C'est vrai que quand on était au village, on a fait énormément de musique. Ils chantent tout le temps où les jeunes et même les moins jeunes tapent sur un petit tabouret ou un mur et ils font de la musique comme ça avec avec trois fois rien, entre guillemets. Puis tout le monde se met à chanter, à danser. On a passé 24 heures au village vraiment à danser. Tout le temps, et c'était comme ça.
Génial. 3 jours de voyage, 3 jours chez vous, 3 jours de voyage, 3 jours quête du Graal, 3 jours de voyage, 3 jours chez vous.
Et William, du coup, est-ce que tu aurais un conseil touristique à nous donner pour un endroit que tu aimes en Tunisie ?
Ah, la Tunisie, elle est vraiment parfaite en termes de nature. Il faut vraiment profiter de la nature ici en Tunisie. Il y a le désert, le Sahara, les dunes, il y a aussi la plage, les montagnes. Vraiment, il faut profiter même des monuments historiques, des sites. Il y a Carthage, il y a aussi El Jam. Moi, je suis basée à Naples, si vous voulez en profiter de la plage. Il y a tout ici, il faut juste profiter bien de votre séjour.
Et vraiment, là, je te pose la question trop difficile, mais si toi, tu devais choisir un seul endroit à conseiller en Tunisie, ça serait où, ton endroit favori ?
Pour moi, c'est le désert, en fait. Le désert, c'est à Tozeur. Vraiment, Tozeur, c'est une expérience, c'est du magie.
Super.
On note. Et William, sur la Tunisie, est-ce que tu aurais un conseil, toi, pour les personnes qui aimeraient y aller, pour vivre sur place ? Est-ce qu'il y a des choses particulières à prendre en compte ?
Bon, il y a vraiment des différences entre les régions. Si vous allez ou voulez installer sur le Grand Tunis, sur la capitale précisément, il faut juste prendre en considération la différence. Mais nous, en Tunisie, on a cet accueil chaleureux et on a l'habitude d'accueillir des touristes français, justement. Et donc, je pense que c'est un confort. Je ne pense pas qu'ils vont rencontrer des difficultés culturelles ou tout. On accueille tout, il y a toutes les différences culturelles, même les différences religieuses, et ça passe très bien.
Super, bah, on arrive, en fait.
Bon, bah... Marhabé.
Super.
Top départ, le rendez-vous jeunesse en mouvement qui te donne les clés du voyage.
Alors, on va passer à la troisième partie de cette émission. Du coup, là, c'est plutôt pour toi, Anna. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que t'as apporté cette expérience au Maroc ? Je crois qu'il y a un nouveau projet qui se profile.
Oui, c'est ça. Alors, nous, maintenant, ce que ça nous a apporté, ben, c'est vrai que la chance, en fait, de se rendre compte dans la situation dans laquelle on vit, parce que, alors, pas partout dans le pays, mais c'est vrai que c'est quand même globalement plus pauvre que la France. Et on a vu la pauvreté, même si ils sont quand même heureux, évidemment, je dis pas ça, mais on a vu les conditions de vie qui sont pas pareilles. On a eu la chance de parler avec des jeunes filles. Alors certaines sont étudiantes, peuvent faire des études, hein, on n'est pas dans des pays dictatoriaux ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que l'accès à l'éducation est moins fort là-bas. Donc la chance en fait du pays dans lequel on vit, même tout ce qui est accès à l'eau, à la nourriture, c'est tout de suite plus compliqué, plus restreint et ou du moins différent au Maroc quoi.
Ça t'a permis d'apprécier ton confort français.
C'est ça, oui.
Et William, toi, en entendant tout ça avec notre conversation, est-ce que tu te sens prête à passer le cap et à venir nous rejoindre en France ?
Bon, pas seulement prête, mais impatiente.
Ça, c'est une super réponse. Eh bien, on t'attend de toute façon. On t'attend aussi avec grande impatience.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous.
Et merci aussi...
Merci à vous.
Pardon, allez-y, je vous ai coupé.
Ah non, je vous remercie, Justin.
Alors, merci aussi à Anna Gasquet d'Europe Direct Drôme-Ardèche, à nos invités d'aujourd'hui, donc Anna et William, et à nos partenaires, la MJC de Châteauneuf-sur-Isère et à l'ensemble Mon Plaisir.
C'était l'émission Top Départ pour la mobilité.
L'émission qui vous aide à réaliser vos rêves de voyage.
Aujourd'hui, entre le Maroc et la Tunisie.
Merci Karina.
Merci Floriane.
Vous venez d'écouter une coproduction Europe Direct Drôme-Ardèche et Radio BLV en collaboration avec les partenaires de Jeunesse en Mouvement, les acteurs qui accompagnent la mobilité des jeunes en Drôme et en Ardèche.
Et vous trouverez plus d'informations et les liens vers les structures dont on a parlé sur le site internet de Radio BLV, radioblv.com et sur ardèche-drôme.info-jeune.fr. Et nous, on se retrouve dans un mois au Forum Jeunesse en Mouvement.
Et oui, c'est le grand moment.
C'est quoi les dates du Forum Jeunesse en
Alors,
Mouvement, Florian ?
Le Forum, ce sera le 30 novembre et le 1er décembre au Parc des Expos de Valence. Donc, on vous attend nombreux et nombreuses pour ce grand rendez-vous autour de la mobilité, mais pas que, aussi de l'engagement, puisqu'on présente cette année tous les dispositifs d'engagement pour les jeunes.
Venez nous rejoindre.
Oui, on y sera, on vous attend.
À bientôt.
Top Départ, le rendez-vous jeunesse en mouvement qui te donne les clés du voyage.